Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Damien Canivez et Cécile Brulot.
Figaro Radio.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un homme de lettres, un animateur, un critique littéraire que l'on a autrefois modestement qualifié de sniper à l'époque quand il officiait dans On n'est pas couché sur France 2. Mais aujourd'hui, on pourrait davantage le considérer comme un char léopard capable de tout raser sur son passage. Lui, c'est un fantassin du verre, vous voyez, que vous pouvez écouter sur Sud Radio, que vous pouvez voir sur CNews, mais que vous pouvez lire aussi en librairie puisqu'il consacre un livre à une femme politique qui porte le même patronyme qu'un philosophe des Lumières, La Différence. Selon cet écrivain, c'est qu'elle, elle se rapproche davantage de l'obscurantisme. Bonjour Éric Nolot.
Très bon lancement.
Bonjour. J'essaye d'être à la hauteur de votre verbe, parce qu'il faut dire que la tournure de phrase là-bas, elle est quand même recherchée.
Hein,
dans la faute à Rousseau, c'est le titre du pamphlet que vous sortez ce mois-ci. C'est aux éditions Léo Cher. Alors dans ce livre, c'est vrai que vous sortez la sulfateuse, hein, on peut le dire. Pour anéantir les contradictions de Sandrine Rousseau, vous fustigez aussi cette espèce de puritanisme exacerbé qu'elle aimerait nous imposer à tous. Mais surtout, vous affirmez que cette femme politique, eh bien, elle multiplie les sorties ubuesques dans un seul but, exister médiatiquement, faire parler d'elle. Ce qui m'amène à cette première question, Éric Nolot. Est-ce qu'à travers ce livre, vous êtes conscient que vous lui offrez quand même un cadeau inespéré à Sandrine Rousseau ?
Oui, être l'objet d'un pamphlet, après tout, c'est une forme de reconnaissance. Mais à partir du moment où cette femme, qui brille quand même pas par des qualités intellectuelles hors du commun, et la record woman des invitations, ouais, il me semble qu'il faut la traiter comme un symptôme. De quoi est-elle le nom, de quoi est-elle le masque ? Alors moi, j'ai deux pistes. D'abord, derrière ce sourire très sympathique de Sandrine Rousseau,
c'est parce
qu'il y a une arriviste, mais vraiment sans pitié, c'est-à-dire qui flingue ses adversaires politiques. Elle a commencé par Bayou, en l'accusant publiquement sur un plateau de télévision de choses terribles qui se sont avérées totalement fausses. Alors ça, je dirais que c'est déjà assez grave, mais c'est surtout le projet de société qu'elle porte, c'est un projet de régression et de répression. Régression vers l'irrationnel, même si on a le temps d'en parler, c'est même une régression féministe, et puis répression puisque, alors vous ça va, mais vous par exemple de naissance vous êtes coupable parce que vous êtes un homme. Donc il ne s'agit pas de vous construire, les mots ont leur importance, il s'agit de vous déconstruire, et moi aussi. Donc les hommes sont coupables par naissance, le désir masculin est coupable de fait. Donc je trouve que c'est une vision assez, assez terrible, parce que c'est un féminisme de punition et une écologie de punition. Et la synthèse des deux, l'écoféminisme de punition, je préfère m'y opposer avant que ça soit devenu la norme.
Mais Sandrine Rousseau, force est de reconnaître qu'on en parle matin, midi et soir. Est-ce que ce n'est pas devenu une cible facile quand même, Sandrine Rousseau, aujourd'hui ?
Ben c'est le contraire. C'est pourquoi est-ce qu'elle est si souvent invitée ? À mon avis, il y a un marché de dupes. C'est que la plupart des médias se disent « bon, on ne va pas trop la pousser dans ses retranchements ». En échange, elle va nous sortir une bourde pourra mettre sur les réseaux sociaux. Ça va faire du clic, c'est bon pour nous, c'est bon pour elle, mais tant pis, c'est surtout bon pour nous. Je pense qu'il y a une forme d'irresponsabilité médiatique parce qu'on ne la pousse jamais dans ses retranchements. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Et les contradictions de Sandrine Rousseau, les bourdes, les billevesées se ramassent à l'appel. Pourquoi les médias ne font pas ce travail ?
Et c'est assez jouissif. Hein. Beaucoup de lecteurs auront sans doute cette opinion aussi quand ils liront La faute à Rousseau. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants, Éric Nolot, mais tout de suite, on découvre les news médias par Cécile Brulot. Salut Cécile !
Bonjour Damien, bonjour Éric.
Cécile, c'est parti. C'est news médias avec la sortie controversée d'une série sur Cléopâtre.
Oui, Netflix a sorti une série documentaire dédiée à Cléopâtre pour ses 4 épisodes consacrés à la reine d'Égypte. La productrice Jada Pinkett-Smith, qui est la femme de Will Smith, a confié le rôle principal à Adele James, une actrice noire. Dans une lettre ouverte, la réalisatrice de cette docu-fiction, Tina Garavi, évoque un choix politique ravivant les débats sur la couleur de peau de Cléopâtre. Je cite « Et si elle était noire ? On ne le sait même pas d'une certaine manière, mais on peut être sûr qu'elle n'est pas blanche comme Elizabeth Taylor, a-t-elle affirmé, avant de lancer un appel au débat sur le colorisme et la suprématie blanche à Hollywood. En Égypte, un avocat égyptien a porté plainte contre Netflix. »
Alors ma question est semi-sérieuse, est-ce que ça aussi, c'est la faute à Rousseau quelque part ?
Ah oui, tout à fait. Sandrine Rousseau est l'un des porte-étendards du wokisme qui a décidé, c'est pas nouveau, hein, c'est un travail qu'on appelle gramscien, quoi, d'Antonio Gramsci, c'est-à-dire qu'il faut passer par la culture, il faut influencer la culture pour faire avancer ses idées. Et là, en effet, Hollywood, maintenant, a décidé que, par exemple, pour qu'un film soit récompensé par un Oscar, c'était moins les qualités artistiques qui comptaient que de satisfaire à certains critères de diversité. Alors, et même, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il faut que le scénario aussi reflète. Donc, en fait, tout le monde plaide, enfin ce courant wokiste, Sandrine Rousseau en tête, ouais. plaide pour un art officiel tel qu'il se pratiquait en Union soviétique, où il fallait que ben, vos films ne sortaient pas s'ils n'étaient pas conformes à l'idéologie communiste. Alors après, ça marche que dans un sens, hein, parce que si vous essayez de faire un biopic avec Martin Luther King en confiant le rôle à Danny Boone, par
ouais,
exemple,
c'est compliqué.
Ça va être un scandale absolu. Mais dans l'autre sens, apparemment, ouais. ben, tout est permis. Non, ouais. c'est pas très sérieux, et c'est surtout c'est de s'en prendre à la culture de cette manière. Je pense même que c'est contre-productif. Ça va braquer ouais. un certain nombre de personnes.
Et ce qui est grave aussi, et ce qu'on se rend compte en lisant votre livre, c'est que l'art est relégué au second plan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les œuvres qui sont primées dans des festivals, vous parlez notamment du festival d'Angoulême, de la BD, on se rend compte qu'en fait, l'art est relégué au second plan et qu'aujourd'hui, les auteurs qui sont primés sont ceux qui pensent bien. Pas ceux qui ont du talent, ceux qui pensent bien.
Non, est-ce que vous êtes dans la ligne ou pas ?
Voilà.
Si vous n'êtes pas dans la ligne, c'est foutu pour vous. Vous pouvez être le plus talentueux des artistes ou la plus talentueuse des artistes. Ça marche aussi pour les femmes. En tout cas, vous n'êtes pas dans la ligne, donc vous ne serez pas récompensé parce que ce qui compte, c'est l'idéologie et une certaine idéologie. Est-ce que vous êtes conforme à l'idéologie dominante en ce moment, qui est l'idéologie wokiste et islamo-gauchiste. Ouais. À ce moment-là, tous les espoirs vous sont permis. Alors, c'est grave. Hein, moi, je pense qu'il en va d'un enjeu de civilisation.
Est-ce que vous pensez vraiment que c'est l'idéologie dominante aujourd'hui ? Parce qu'on a le sentiment que ce sont des voix qui parlent fort, mais que c'est une minorité quand même à laquelle beaucoup de personnes se plient. La presse en partie aussi, mais le cinéma, vous en avez parlé, la littérature. Est-ce que malgré tout, on ne se plie pas à une minorité là ?
Ben oui, on se plie à une minorité.
Vous dites que c'est l'idéologie dominante, mais pas vraiment.
Vous savez, l'idéologie.
Vous croisez des gens dans la rue, ils ne vont pas vous dire qu'aujourd'hui tout le monde est transphobe, tout le monde est homophobe, tout le monde est.
Oui, mais c'est ça le plus grave. C'est que l'idéologie, si vous interrogez des gens dans la rue, vous allez avoir 50 nuances d'idéologie. Est-ce qu'elles sont représentées dans les médias ? Moi, je dis que non. Je dis qu'au cinéma, à la télévision, dans la culture en général, c'est cette idéologie qui est la plus représentée. C'est-à-dire que vous allez être invité beaucoup plus facilement si vous êtes de ce camp que dans le camp adverse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cet arraisonnement de notre société par le wokisme et l'islamo-gauchisme est pour moi extrêmement préoccupante.
Alors donc vous sortez ce mois-ci, on le rappelle, hein, ce pamphlet d'une acidité extrêmement rare. Hein, ça s'appelle La faute à Rousseau, c'est aux éditions Léo Cher. Alors dans la première partie de votre livre, vous revenez sur cette séquence qui s'est déroulée le 19 septembre 2022 sur le plateau de C'est à vous sur France 5. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, à ce moment-là, Sandrine Rousseau y est invitée et déclare que Julien Bayou, qui est alors secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, a pu avoir, je cite, des comportements de nature à briser la santé mentale des femmes. En quoi cette déclaration vous pose-t-elle problème ?
À moi, j'en suis resté bouche bée. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau arrive, dit très très calmement, Julien Bayou a en effet un comportement qui est de nature à briser la santé morale des femmes. D'ailleurs, j'ai reçu une de ces femmes qui a fait une tentative de suicide, donc le téléspectateur se dit donc qu'il y a un rapport entre le comportement de Julien Bayou et la tentative de suicide. D'ailleurs, il y a d'autres femmes que moi, je n'ai pas reçues, mais une enquête est en cours. Donc la journaliste lui dit une enquête policière. Non, une enquête journalistique. Alors déjà, on tombe un peu des nues. Et moi, j'ai lu cette enquête qui est parue dans Reporter. Le dossier est absolument vide. Et à la fin des fins, même la cellule au sein des écolos de répression des violences sexuelles et sexistes n'a même pas eu à se prononcer, car cette femme dont parlait Sandrine Rousseau, ne s'est pas présentée et aucune autre femme n'est venue se plaindre. Donc si vous voulez, ça a fait pchit totalement, sauf que ben, Julien Bayou a été flingué et que maintenant il traîne après lui cette réputation d'homme qui pousse les femmes au bord du suicide. Enfin, je trouve ça gravissime. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a même plus de procès, ça passe par la télévision et les réseaux sociaux. Voilà, c'est la mort sans phrase.
Mais alors, selon vous, parce que vous parlez, on a un petit peu évoqué votre point de vue sur les médias qui reçoivent Sandrine Rousseau, pour elle, quel est son projet ? Est-ce qu'elle veut choquer pour exister médiatiquement ? Est-ce qu'il y a un projet réel politique derrière ? Quel est votre avis sur
Alors, ce qui est troublant, et vous mettez le doigt sur un point important, c'est qu'il y a un mélange très troublant de cynisme et de bêtise. Alors, c'est très difficile de faire la part, c'est peut-être du 50-50. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a dit, même, qui a théorisé, qui a dit « Avant, j'étais raisonnable et personne ne m'écoutait. Oui. Maintenant, je vais être déraisonnable et on m'écoute. » Programme tout à fait respecté, puisque chaque fois qu'elle sort une bourde, ça fait les gros titres, en tout cas ceux des réseaux. Mais tout ça est en effet au service d'un projet politique extrêmement précis, un projet de régression et un projet de répression. Je m'arrête un peu sur régression et une phrase emblématique, je cite dans le livre, elle a quand même dit cette phrase inouïe, « Moi, je préfère les jeteuses de sorts aux ingénieurs EPR. » Ça veut dire qu'elle propose une régression de l'âge rationnel à l'âge irrationnel, et même sur les femmes. Elle propose un programme de régression où les femmes, en fait, vont danser les nuits de pleine lune le sabbat et touiller des filtres magiques plutôt que d'aller faire des études. Elle dit, au fond, la nature féminine est plus du côté de l'irrationnel, de la magie, plutôt que des études et de l'émancipation. Enfin, que personne dans le camp féministe de la confronte à ce genre de déclaration inouïe, je trouve que c'est une preuve de l'extrême complaisance dont on fait preuve à son égard.
Mais je vais me faire un instant l'avocat de Sandrine
mais
Rousseau.
Vous allez très bien le faire.
je vais essayer. Mais est-ce qu'il ne faut pas choquer pour faire avancer les mentalités? Je vous donne cet exemple parce que c'est vrai que l'écologie, aujourd'hui, on en parle à longueur de reportage, mais c'est vrai que pas grand-chose ne bouge. Si vous faites une déclaration choc, si vous aspergez de la peinture sur des tableaux dans des musées, à ce moment-là, on va en parler. Est-ce que ce n'est pas, quelque part aussi, l'une des raisons pour laquelle ces militants agissent ainsi et qui peut expliquer aussi les déclarations tonitruantes de Sandrine Rousseau?
Ben, ce que vous opposez, là, c'est un cadre démocratique à un cadre antidémocratique. Alors, est-ce qu'il faut sortir du cadre démocratique?
Ouais.
Bon, c'est un vrai débat, mais il faut m'expliquer où ça s'arrête. Parce qu'en effet, vous allez sortir des bourdes, bien. Mmh. Vous allez jeter de la soupe sur des tableaux. Alors, le stade d'après, c'est quoi? Vous allez jeter de la soupe sur des tableaux qui ne seront pas protégés. Vous allez procéder à une destruction. Sainte-Soline, il y a eu des sabotages. Ils ont saboté le bien d'autrui, des biens d'agriculteurs. Et on arrive à ce qui s'est passé à Saint-Brévin. En fait, puisqu'on n'arrive pas à se faire entendre, eh bien, incendions les véhicules de ce maire, incendions son domicile, si la fin justifie tous les moyens. Moi, je regrette, nous vivons en démocratie, nous vivons en République, la promotion permanente de Sandrine Rousseau et de ses amis de comportements anti-républicains, de comportements antidémocratiques, nous mène, un, vers le terrorisme intellectuel, deux, vers le terrorisme tout court. C'est une sorte d'accréditation du terrorisme.
– Et vous n'avez pas jeté de la soupe sur Sandrine Rousseau, vous lui avez consacré un livre, hein, donc ça prouve bien qu'on peut aussi
agir différemment. – Vous voyez, ça ne viendrait même pas à l'idée. Alors aussi, on peut me dire, je lui jette de l'encre, mais enfin, ça, mon encre reste dans le… Dans les... Non, mais je crois que… Il y a un respect. Tous les coups ne sont pas permis. Or, cette frange extrêmement radicale, extrémiste, justement, est en train de faire gagner dans la société, c'est très dangereux, l'idée que tous les coups sont permis. Je ne le crois pas.
– Mais pour revenir rapidement sur l'affaire Julien Bayeux, il est question qu'elle dénonce un comportement de goujat. Vous dites que ce n'est pas répressible par la loi. Mais est-ce que ce n'est pas une bonne chose aussi de confronter publiquement ces personnes qui sont des goujats ?–
Oui, mais sur la base de quoi ? Moi, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, je trouve extrêmement osé, délicat de se mêler d'une affaire de couple parce que vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Alors, je ne vous parle pas de violence caractérisée. Si elle avait dit, écoutez, une femme est venue me voir et Julien Bayeux l'avait roué de coups, évidemment que je n'obtiendrais pas ce discours. Ouais. Ça, c'est absolument
parce
inadmissible. –
Ça tombe sous le coup de la loi aussi.
– Oui, bah, évidemment, coups et blessures, enfin, ce serait inadmissible. Mais là, cette femme a mal vécu la rupture. Qu'est-ce qu'elle en sait? Qu'est-ce qu'elle en sait? Il faudrait avoir longuement entendu Julien Bayeux lui-même. Elle a même pas eu le enfin, c'est quand même une démarche minimale d'aller entendre Julien Bayeux de son côté. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans un couple. S'il y a un comportement violent, évidemment, l'affaire est réglée, ça doit se régler devant la justice. Mais une rupture qui se passe mal, moi, je ne m'en mêle pas parce que je n'ai pas les éléments d'information. Et Sandrine Rousseau a accusé Julien Bayeux sans les éléments d'information minimaux.
– Alors, connais bien votre style aussi. Hein. Dans le livre que vous avez écrit, Sandrine Rousseau tient de la grenouille de bénitier et d'une supplétive de la police iranienne, de toutes ces renifleuses de caleçons travesties sous l'apparence de grossistes en moraline, narines frémissantes et pierre à la main. Voilà ce que vous écrivez sur Sandrine Rousseau. Alors, beaucoup plus loin dans le livre, vous allez même jusqu'à la comparer à un taliban, en fait. Vous dites qu'il y a du taliban dans Sandrine Rousseau, mais quel est le point commun entre des fanatiques afghans et Sandrine Rousseau ?
C'est très simple, il y en a deux. D'abord, c'est la volonté de faire table rase du passé, c'est-à-dire que tout ce qui précède la croyance doit être éliminé. Donc les talibans, tout ce qui précède l'islam doit être éliminé, ils ont dynamité les bouddhas. Et Sandrine Rousseau, tout ce qui précède l'écoféminisme doit être éliminé. Pourquoi ? Parce que tout est issu du patriarcat. Ouais. Puisque vous avez vécu au nom du patriarcat, les œuvres d'art que vous avez pu produire, eh bien, sont...
Influencées par le patriarcat.
Influencées par le marquées d'un sceau négatif. Et donc, on peut balancer de la soupe sur les œuvres. Tous les coups sont permis. Évidemment qu'il y a une différence de degré, mais pas de nature. C'est très inquiétant. Hein. Je trouve que c'est un personnage, en fait, très inquiétant. Je le compare à Didi, là, le personnage de Tintin, qui dit « je vais vous couper la tête et ensuite vous trouvez la voie », mais c'est dans ce sens-là. Il faut d'abord vous couper la tête et ensuite vous trouvez la voie. Et dans le cas de Sandrine Rousseau, je vais trouver la voie de l'écoféministe si j'accepte de me faire couper la tête. Non, ce sont des fanatiques.
Ouais. – Mais vous comparez wokisme et islamisme, est-ce que vous ne trouvez pas ça un petit peu caricatural ?–
Je pense que les gens raisonnables en ce moment sont coincés entre l'enclume et le marteau, l'enclume et le marteau étant le wokisme et l'islamo-gauchisme. Je pense que là encore, nous avons quelques anticorps, c'est-à-dire nous avons développé un peu notre raison, notre esprit rationnel. Mais j'ai très peur pour les jeunes générations qui entreront de plein pied dans ce monde avec l'idée qui sera totalement entrer dans les têtes qu'un homme est coupable par naissance, que eh bien, les œuvres du passé doivent être réécrites, par exemple. Ça, c'est extraordinaire, quand même, de dire que ce sont les critères du présent, du contemporain, qui doivent guider la réécriture des œuvres du passé. Mais quelle forme d'arrogance Ça, c'est très totalitaire. C'est ce qu'explique Orwell dans 1984.
Bien sûr.
On passe son temps à réécrire les textes. C'est ce que souhaitent Madame Rousseau et ses amis.
Et justement, vous faites référence là au lecteur de susceptibilité, que vous avez eu d'ailleurs l'élégance de traduire, parce qu'on parle de sensitivity reader.
Oui, j'en ai marre du franglais.
Voilà. Oui, mais à partir du moment où il y a un concept anglais, c'est souvent fumeux derrière. Oui. Hein, je sais si vous avez remarqué. Dès lors qu'on a mansplaining, il y a beaucoup de termes anglais qui sont appropriés par des féministes aussi, mais qui sont rarement traduit en français. Peut-être parce qu'on se dit que ce sera plus accepté dans la société. Je ne sais pas si c'est votre avis là-dessus.
Bah, c'est bien quand
c'est ma grille de lecture.
Quand c'est anglais, on se dit que c'est donc validé ailleurs, puisque ça vient d'ailleurs. Donc si ça vient d'ailleurs, c'est bon pour nous. Tout ce qui vient des États-Unis, nous finissons par l'adopter, n'est-ce pas?
Alors, les lecteurs de sensibilité, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui vérifient que le contenu d'une œuvre n'est pas trop transphobe, homophobe, sexiste.
Oui, c'est-à-dire, ça va plus loin que ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils vérifient que le contenu ne peut offenser personne.
Ouais.
Donc on vit quand même dans un monde d'offensés perpétuels, c'est-à-dire vous lisez un truc et vous êtes, mais vraiment, ça vous bouleverse, quoi. Ouais. Et donc, il y a des lecteurs qui, avant, disent non. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, dans les universités, ça s'appelle aussi d'un mot anglais, là, trigger warning, je crois.
Oui.
Hein, quand le prof s'apprête à dire quelque chose qui peut choquer, il prévient les élèves et certains peuvent sortir.
Et ça vous effraie, les lecteurs de susceptibilité?
C'est de la censure. Ouais. C'est de la censure qui va aboutir à quoi? À l'autocensure. Ouais. Un jour, ça ne viendra même pas à l'idée des auteurs, des écrivains, d'écrire ce qu'ils voulaient écrire, parce qu'ils se disent, bon, il va falloir que je me fade les lecteurs de sensibilité, et ensuite, mon livre portera cette marque d'infamie, quoi. Donc je ne suis pas dans les clous, je ne suis pas dans l'époque, il faut donc que je m'autocensure. Je ne pense pas que l'art, la censure et l'autocensure soient compatibles.
Ça revient un petit peu sur le complément d'enquête aussi qui a été consacré à Sandrine Rousseau. Vous citez dans votre livre La cousine bête d'Honoré de Balzac. Donc c'est quand même une femme qui a pour réputation de ruiner tout ce qui l'entoure et notamment son entourage. Si on raconte un petit peu la fin, elle meurt de rage. Est-ce que c'est le destin que vous imaginez pour Sandrine Rousseau, presque ?
Non, je ne sais pas ce que ça peut donner, Sandrine Rousseau. Il y a un danger qui la guette, c'est que d'être débordée par plus radical qu'elle. J'ai vu que, puisque ça devient un modèle, j'ai vu que maintenant, certaines écologistes, notamment la nouvelle patronne des Verts, c'est Sylvaine Tondelier, c'est ça ?
Oui, c'est
Marine Tondelier. Marine Tondelier essaye d'être plus radicale qu'elle, de sortir des bourdes encore plus monumentales. Ah, oui. Donc ça, c'est le premier danger. Puis qu'ensuite, on se lasse, puisque, vous savez, les médias se lassent de la nouveauté au bout d'un moment, vous êtes un peu moins invité. Mais enfin, en attendant que ce jour arrive, elle aura fait beaucoup de dégâts. Non, j'ai pris La cousine bête d'abord parce que j'aime beaucoup ce roman de Balzac, et puis ensuite pour montrer que il y a aussi des femmes qui peuvent avoir des comportements de nature à ruiner la santé morale d'autres femmes. Hein. Ça se voit dans la vie, je ne pense pas. Ouais. Ça soit une exclusivité masculine, malheureusement.
Sûr, ça on a reçu des chagrins d'amour qui nous ont quelque part un petit peu meurtri aussi. Et ça, ça peut être l'œuvre d'une femme également.
Ah, mais oui, il me semble. Hein, il me semble. Enfin, bon, après, on peut imaginer un monde où la pureté serait représentée par des femmes qui sont tous des êtres admirables, sans défauts ni tâches, et puis des hommes qui seraient chargés de tous les péchés. Ouais. De ma modeste expérience personnelle, c'est pas le monde.
Vous avez eu des chagrins d'amour, c'est ce que vous voulez
dire. Mais oui, bien sûr. Et j'en ai certainement causé. Je pense que tout est ambivalent. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que dans un couple, c'est beaucoup plus compliqué que les jugements que peut porter Sandrine Rousseau.
Alors Sandrine Rousseau, c'est une personnalité qui a récemment explosé dans l'arène médiatique, mais elle a fait parler d'elle aussi en 2017 à l'occasion de la publication de son livre Parler dans l'affaire Denis Baupin. Elle est invitée à ce moment-là sur le plateau d'On n'est pas couché avec Yann Moix face à elle et Christine Angot.
Ah, oui.
Et à ce moment-là, il y a un véritable clash, une altercation qui se produit entre Christine Angot et Sandrine Rousseau. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Il y a un concours victimaire.
Ah, oui.
C'est-à-dire que Sandrine Rousseau, alors là, c'est pas à remettre en cause. Elle dit qu'elle a été victime d'une agression. Il n'y a vraiment aucun... il n'y a aucun souci avec ça. Mais elle tombe sur Christine Angot, et Christine Angot n'aime pas qu'on lui conteste son statut de victime en chef. Ouais. Elle aussi dit qu'elle a été, elle a consacré à ses agressions plusieurs livres. Elle dit qu'elle a été victime d'un inceste, et elle tombe sur Sandrine Rousseau en lui disant mais quoi, vous n'avez pas le droit de parler comme ça des violences faites aux femmes. C'est pas comme ça qu'on parle, parce qu'apparemment il y a une manière de parler des violences qu'on a subies, et c'est Christine Angot qui le sait. Bon, alors voilà.
Elle était assez lunaire d'ailleurs cette séquence.
Ah, mais
on n'a pas compris d'où partait cette altercation.
Non, totalement. Donc Sandrine Rousseau finit par pleurer. Alors à partir de là, c'est gagné, parce que Christine Angot passe vraiment pour une femme sans cœur et tout, qui s'acharne sur quelqu'un qui est en détresse morale. Et ça a un peu lancé la carrière de Sandrine Rousseau.
Elle le dit d'ailleurs elle-même, je crois, Sandrine Rousseau, que ça a été un début pour elle, une prise de conscience aussi.
Bien sûr. Et alors, moi, bon, évidemment, c'est un pamphlet, donc ce n'est pas une enquête, mais quand même, sur certains points, j'ai mené une enquête. Les gens qui ont assisté à la séquence disent que c'est beaucoup plus trouble qu'on ne le pense. Ils disent, enfin c'est leur impression, hein, je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres témoins qui ont une autre impression, que Sandrine Rousseau savait très bien ce qu'elle faisait, qu'elle poussait Christine Angot dans ses retranchements pour essayer de la faire déraper, et qu'elle voyait bien que médiatiquement c'était en train de la servir. Voilà. Donc même dans les moments de grande émotion, je pense qu'il y a une part de cynisme chez Sandrine Rousseau.
Il y a un détail qui nous a intéressé dans votre livre. Des baronnes et petits marquis se mêlent du montage final de l'émission. Donc, c'est ce que vous écrivez. Est-ce que ça arrivait souvent et à qui vous faites référence ?
J'ai été très surpris. Alors, je ne vais pas citer les noms, mais des personnes qui étaient responsables de l'émission. Je les rencontre plusieurs années après avoir été viré, pour dire les choses plus clairement, dont n'est pas couché. Et il me dit « Ah, est-ce que vous étiez reposant, toi et Zemmour, vous n'interveniez jamais dans le montage de l'émission ?» Je dis « Ah bon ?» Parce qu'on pouvait. Ouais. Il me dit « Ah ben oui, il y avait des gens. Bon, là non plus, je n'ai pas envie de faire du name-dropping. »
Ouais. C'est un name-dropping, bravo.
Du lâchage de nom. Qui, en effet, disait que telle séquence n'avait pas été à leur honneur et qu'il demandait à ce que ça soit coupé, quoi. Voilà. Donc j'étais très surpris, décidément, Zemmour et moi sommes des êtres extrêmement naïfs, quoi, en fait. Parce que moi, ça ne me serait même pas venu à l'idée. Je quittais l'émission, je restais...
Vous assumez vos propos, c'est ça?
J'assumais, et puis voilà, c'est pas mon... Moi, mon travail, c'était d'être chroniqueur, pas monteur.
Et d'ailleurs, vous donniez aussi vos impressions sur les œuvres littéraires des invités qui défilaient face à vous. Sandrine Rousseau, en 2007, a écrit un livre, Éplucheur à la Lilloise. Ah, si vous aviez été face à elle à ce moment-là et que vous deviez chroniquer quelque part son livre, vous lui auriez dit quoi?
De tout refaire.
Ah oui, de tout refaire.
De tout reprendre, parce que c'est ni fait ni à faire, ni écrit ni à écrire. C'est rien, quoi. C'est une forme, au mieux, c'est un brouillon. C'est un brouillon qui aurait dû être travaillé par son éditeur. La seule chose, c'est que le point de départ est quand même assez intéressant. C'est un homme qui se fait éplucher par des femmes. Je trouve ça intéressant d'un point de vue féministe. Ça, c'est tout de même un peu intéressant. Et il y a autre chose, c'est qu'elle est interviewée par FR3 Lille. Ouais. Et elle dit « J'écris pour me venger d'un supérieur que j'ai eu, que je ne pouvais pas supporter. Et j'écrivais la nuit comme on plante des aiguilles dans une poupée vaudou. »
Ah oui.
Je trouve que c'est intéressant comme imaginaire. Je trouve qu'elle charrie toujours un imaginaire très positif, tout à fait décontracté. On sent que c'est une femme apaisée, qui a des relations avec les hommes tout à fait apaisées. Alors, soit elle leur plante des aiguilles, soit elle veut les déconstruire.
Et une dernière question, parce que c'est vrai que c'est ce que vous... Il y a aussi, quelque part, des stéréotypes sexistes dans son livre. Et ça, c'est ce que vous pointez aussi dans son roman, notamment lors de cette scène dans un enterrement, je crois, où elle décrit des femmes avec une forte poitrine.
Oui, elles sont toutes blondes à forte poitrine. Voilà. Donc là, c'est...
Si ça avait été écrit par un homme, ça aurait été un peu plus
problématique. Là, c'est le sexisme minimal, mais plus essentiellement, quand elle propose que les femmes prennent pour modèle les sorcières, c'est en effet un cliché féministe. Mmh. La femme sorcière, la femme du côté de la magie noire, et pas des études. Enfin, même ça, qui devrait être son point fort, elle devrait être irréprochable, elle propose un programme délirant.
Est-ce que vous pensez que c'est juste du délire ou que ça tient aussi parfois du changement d'avis, parce qu'on parle d'un livre écrit en 2007 ?
Non, elle en a parlé depuis longtemps. Des sorcières. Et la sorcière est devenue une figure féministe majeure. Assez curieusement, avec des fantasmes d'ailleurs.
Il y a plus en plus de personnes qui croient encore aux sorcières aujourd'hui.
C'est en être gain. Ça va avec les sorcières, les Illuminati, la Terre est plate, marché sur la Lune.
Un peu obscur, métaphysique, etc.
Ah oui. Non, c'est un programme de régression totale.
Eh bien, merci beaucoup, Éric Nolot. Je rappelle que vous sortez ce mois-ci ce livre, La faute à Rousseau, c'est aux éditions Léo Cher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir suivi le Buzz TV et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.